Miguel Doucet, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Vous êtes ici pour nous présenter la toute première revue de presse sur la santé dans le monde, à savoir des initiatives inspirantes en matière de santé et de science. Et Miguel, vous revenez de Londres. Comment se portent les Londoniens?
Se portent très bien. Et j'ai tellement eu du beau temps. On a toujours l'image d'une ville sous la pluie, brumeuse. Eh bien, c'était le soleil. Et parlant de santé, il y avait une pièce...
Et de Londres.
Et de Londres. Présentement à Londres, il y a Nicole Kidman qui joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle Le Photograph 51, et ça raconte, on parle de science, on parle d'innovation, et c'est une scientifique qui a vraiment existé, donc c'est une biopic, si on peut dire, mm-hmm. une biographie, sur Rosalind Franklin, qui est la première scientifique à avoir photographié l'ADN humain. Et ça s'est passé dans la période des années 50, entre 51 et 53. Entre 1951 et 53, et on a voulu... parler de cette femme-là, et je me suis dit...
Qui a laissé des traces, pas simplement d'ADN.
Mais de là, de voir c'est quoi les répercussions et quels sont aujourd'hui les sujets sur lesquels certains scientifiques s'attardent.
Oui.
Entre autres, on a aux États-Unis les supercalculateurs au service pour faire de la recherche pour
la
les
santé
maladies...
cardiovasculaire, voilà.
Oui, les maladies du cœur. On veut concevoir des prothèses. Et juste pour te donner quelques chiffres comme ça, on parle de 100 000 battements de cœur dans une journée et 2,5 milliards de battements de cœur dans une vie.
C'est mieux d'être une bonne calculatrice.
Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de super calculateurs qui vont justement compter ces battements de cœur-là. Et je ne sais pas à quel âge la personne meurt pour avoir fait 2,5 milliards de battements de cœur dans une vie,
oui.
Mais tout de même, c'est un muscle et on en a besoin.
Oui.
Et c'est chaque battement de cœur-là, bien, on veut justement aider pour les personnes qui ont des maladies cardiaques
mm-hmm.
et créer justement des prothèses. Et c'est surtout la valve, donc à chaque battement, on a comme l'ouverture et la fermeture d'une valve qui fait l'arrivée et le départ du sang à travers le cœur pour permettre ensuite la direction du sang vers les poumons et les autres organes, eh bien, c'est surtout cette fermeture et ouverture-là qui n'est pas toujours précise. Et c'est ça que le supercalculateur veut savoir. Et c'est là que se passe la recherche. Et au-delà de ça aussi, on veut vous reproduire avec un système non humain, si on veut, ces fonctionnements pour arriver à un fonctionnement naturel pour la personne.
Donc, le supercalculateur peut aider à créer des prothèses pour aider la personne qui a un souci en santé cardiovasculaire.
Bien, à amener une précision, justement, dans la prothèse.
Ah, d'accord.
Dans la circulation. On parle aussi, par exemple, du clapet qui constitue la valve mitrale qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche qui soumet à des tensions et des étirements. Et parfois, les battements cardiaques, s'il y a une déformation du cœur, n'est pas toujours exacte. Alors, c'est ça aussi que le supercalculateur veut savoir et les recherches se font. C'est nécessaire aussi d'améliorer la modélisation et le fonctionnement de la valve entière. Et ces supercalculateurs-là, c'est où? Bien, c'est au Texas Advanced Computer Center et c'est sous l'équipe du professeur Michael Sack. Et on veut essayer de justement trouver les déformations et la géométrie de la valve mitrale.
Uh-huh.
Mais au-dessus aussi, on parle que 280 000 personnes dans le monde qui subissent une opération chirurgicale qui consiste à poser une valve artificielle.
Ah oui?
Et il faut aussi être en mesure de comprendre que ces valves-là ou ces opérations-là, la durée de vie n'est pas très longue. On parle de 3 à 5 ans en moyenne. Et ce qu'on veut, c'est amener...
Si la valve est plus précise, j'imagine que l'espérance de vie sera allongée.
Exact. Ah, et voilà. Aussi, pour justement l'opération, les effets à long terme, on veut amener une durée plus longue. Alors, c'est vraiment le but de cette recherche-là, vue avec ces supercalculateurs.
Du côté de nos voisins du Sud. Maintenant, Miguel, vous voulez nous parler de la biomimétisme. Qu'est-ce que c'est que ça?
Biomimétisme. Eh bien, on parle depuis une dizaine d'années. C'est une chercheure, Janine Beyus, qui s'intéresse à cette science de la biomimétisme. Mimer, hein, on veut recréer. Et c'est une discipline scientifique qui est tout tout nouveau, c'est très nouveau, et on veut s'inspirer des modèles présents dans la nature. Donc,
voilà.
Tout ce qui a été produit, eh bien, on peut peut-être, nous, s'en inspirer pour certains problèmes ou défis que nous, les humains, on a. Alors, comme elle dit, c'est de trouver des stratégies pour résoudre des problèmes humains. Et elle, j'aime bien, je vais la citer, elle dit que nous ne sommes pas les premiers à avoir construit des choses comme de complexes comme des habitats ou à créer des parois étanches. Alors, il y a des animaux.
On peut s'inspirer des animaux. Voilà, je pensais aux castors, entre autres choses, avec leur barrage, c'est extrêmement ingénieux. Donc, de s'inspirer de la nature des animaux pour, enfin, nous aider, nous, les humains. Est-ce qu'il y a des exemples concrets,
Tout
Miguel?
Tout à fait. On parle des requins. Les requins sont arrivés il y a tellement longtemps. On parle même de l'ère du dinosaure. Il y avait des requins dans les eaux. On parle aussi qu'on s'inspire par rapport à la peau des requins qui est formée de denticules, une forme de l'agencement qui empêche les bactéries, les parasites de pouvoir se fixer en créant une surface instable.
Plus étanche,
exactement.
Ouais.
Puis c'est un répulsif bactérien naturel. Alors ces chercheurs-là ont idée de copier pour l'adapter. Là, je me suis dit, vont-ils nous faire quelque chose sur notre peau? Non, non, c'est pas sur nous. C'est plus sur les murs des hôpitaux. Et puis, si on enduit la même chose, on peut réduire à 80 % la prolifération des bactéries. On parle même de la E. coli.
Bien oui, bien oui. Et les personnes âgées, notamment, qui sont hospitalisées ou d'autres personnes qui ont un système immunitaire plus faible pourraient vraiment être gagnants là, lors de ces visites à l'hôpital.
Un autre exemple, la tardigrade. Voilà, je viens de gagner une coupe de points dans un Scrabble. Mais c'est juste vous dire, c'est un petit animal qui est un demi-millimètre d'épaisseur. Juste à voir la photo, ça a l'air d'un pou, mais bon, c'est vraiment tout petit. Eh bien, eux, ils peuvent résister à un environnement défiant l'imaginaire. Alors, ils peuvent vivre dans des conditions d'anhydrobiose. Là, j'ai l'air vraiment intelligent, je vais vous dire. L'anhydrobiose, ça veut dire vivre sans eau. Alors, ça implique que leur organisme peut se dessécher littéralement pour former et ralentir leur métabolisme. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils remplacent l'eau de leur corps par un sucre qui leur permet de maintenir l'intégrité des cellules. Alors, de cette façon-là, on veut s'inspirer de ce petit animal-là. Pourquoi? Parce qu'on veut garder pour les vaccins.
OK.
Parce qu'eux peuvent se conserver et résister à des températures, on parle de moins 253 Celsius, donc proche du zéro absolu. Eh bien, si on peut faire la même chose avec nos vaccins, qui ont recours souvent à être réfrigérés. Alors, c'est une façon de pouvoir faire avancer. Souvent, on pense à nous, mais des fois, c'est plus
oui, souvent,
à notre service.
Oui, souvent,
on
pense que l'humain a les meilleures idées et la race supérieure. Et pourtant, les animaux, tout ce qui nous entoure, la nature peut être extrêmement... Tout ça est extrêmement inspirant. Maintenant, Miguel, j'aimerais beaucoup que vous me parliez de l'application Bicyclaire qui vient ici de Montréal, des chercheurs de McGill qui peuvent rendre un sérieux coup de pouce aux cyclistes, parce qu'il y a encore des gens qui font du vélo.
C'est une application, oui, qui est d'une équipe de chercheurs de l'Université McGill, qui est dirigée par Marianne Adzopoulos. Et cette application-là, c'est nous permettre de trouver le trajet le plus court, le moins pollué et le plus calme. Alors, vous entrez les données de votre départ et celles de votre arrivée et vous pouvez voir et visualiser sur cette application un trajet plus court en bleu, un trajet moins pollué en vert et un trajet plus calme en rouge. Donc, plus calme insinue qu'il y a moins
de voitures. Voilà.
Exactement. Et on peut même visualiser la concentration d'oxyde d'azote sur cette application-là. Et on parle même que l'application sera maintenant aussi à Toronto. Il y a d'autres équipes de
chercheurs. Nos chercheurs ici ont inspiré d'autres chercheurs ailleurs au Canada. Bicyclaire sur les téléphones intelligents?
Entre autres.
Ah, bon, parce que je disais, on fait encore du vélo, même si c'est l'automne.
Il fait beau, on profite des belles journées. En plus, c'en est une très belle aujourd'hui.
Certainement. Miguel Doucet, merci beaucoup pour cette revue de presse de la santé dans le monde. On se retrouve dans un mois parce que ce sera une présence mensuelle.
Merci, Marianne.
Mathieu Tessier à la